Journal avec vous, Kevin Dufraîche, bonjour.
Bonjour à tous.
D'abord le deal à l'aube. À Bruxelles, après 4 jours de négociations, les 27 sont tombés d'accord sur la répartition du plan de relance européen de 750 milliards d'euros. L'Europe et la solidarité financière, on en reparle aussi avec nos invités ce matin. À 7h50, Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Et puis à 8h20, un invité exceptionnel, le chef d'orchestre de ce sommet historique, le président du Conseil européen en duplex de Bruxelles, Charles Michel, dans le grand entretien. Questions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000. Dans le reste de l'actualité, Kevin.
5 morts et 4 blessés. Accident sur l'autoroute A7. Une voiture transportant 9 membres d'une même famille s'est embrasée hier. Dans ce journal encore, la difficile application de l'amende de 135 euros pour non-port du masque, obligatoire dans tous les lieux clos désormais. Le plan sécurité cathédrale était-il bien appliqué à Nantes? Question posée 3 jours après l'incendie. Et puis, avantage Delphine Ernotte, la présidente sortante de France Télé, se présente face au CSA aujourd'hui pour tenter d'obtenir un second mandat de 5 ans.
France Inter.
Le marathon est enfin terminé à Bruxelles. Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont tombés d'accord tôt ce matin sur la mise en place du plan de relance post-coronavirus. 750 milliards d'euros au total. Après les tractations, les interruptions, les coups de gueule aussi. Le soulagement donc, notamment pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
Nous avons négocié 4 longues journées et nuits, plus que 90 heures, mais cela a valu la peine. Cet accord est un signal de capacité d'agir en Europe.
Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour Kevin.
Correspondant de France Inter à Bruxelles. Pierre, les 27 ont fini par trouver une position commune. Comment va se faire la répartition de ce plan?
Alors, 390 milliards d'euros pour les subventions des fonds versés directement aux États bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qui ont été les plus touchés par les effets économiques de la pandémie. Italie, France, Espagne est parmi les plus gros bénéficiaires. Ces subventions ont été négociées pied à pied pendant à peu près 92 heures avec les États frugaux du nord de l'Europe qui ne voulaient rien accepter d'autre que des prêts. Finalement, les prêts, ce sera seulement 360 milliards d'euros. C'est beaucoup plus que ce qu'ils étaient prêts à faire puisque au début, c'était zéro. Emmanuel Macron l'a répété tout à l'heure, une enveloppe globale donc de 750 milliards d'euros et aussi cette enveloppe qui sera financée par des emprunts que la Commission européenne lèvera directement sur les marchés financiers. Ça aussi, c'est une concession accordée par les États frugaux qui finalement ont donné quand même aux autres en échange de rabais qu'ils obtiendront sur le budget pluriannuel de l'Union européenne. Un budget qui a été fixé dans le même temps à 1 074 milliards d'euros sur les 7 prochaines années. On est donc à un niveau, une enveloppe assez ambitieuse.
Pierre Benazet à Bruxelles, merci. Du côté des dirigeants européens, c'est la satisfaction qui domine ce matin. Ce sommet marque une étape majeure en Europe pour Emmanuel Macron, qui qualifie même ce jour d'historique. Pour Charles Michel, c'est la démonstration que la magie du projet européen fonctionne. Le président du Conseil européen qui sera l'invité exceptionnel de France Inter tout à l'heure à 8h20. 5 enfants âgés de 3 à 14 ans sont morts, 4 personnes sont gravement blessées. Voilà le bilan encore provisoire du terrible accident survenu hier soir sur l'autoroute A7 à hauteur d'Albon dans la Drôme. Le Renault Scénic qui transportait ses 9 membres d'une même famille roulait en direction du nord. Le procureur de la République de Valence, Alex Perrin, s'est rendu sur place hier. Il a fait le point sur les circonstances de l'accident.
Ce véhicule a manifestement pris feu. L'examen des vidéos Vinci nous le montre. On voit que ce véhicule, alors qu'il circule, commence à dégager une fumée importante et à prendre feu. Puis ensuite, manifestement, le chauffeur, qui est père de famille, en perd le contrôle et ce véhicule va partir en tonneau et sortir de la chaussée. A priori, il n'y a pas d'intervention de véhicule tiers. Il semble bien que ce soit un véhicule tout seul qui se soit accidenté. C'est un véhicule qui, en principe, est prévu pour 7 personnes. Il y avait 9 personnes, mais il y avait des enfants qui sont des enfants jeunes. La cause n'est pas dans le nombre des personnes, manifestement. Elle est très certainement une cause technique. Il faudra qu'on essaie de la comprendre.
Alex Perrin, le procureur de la République de Valence, au micro d'Alexandre Berthaud. Le pronostic vital de 3 des 4 blessés est engagé. Ils ont tous été hospitalisés dans des services pour grands brûlés à Lyon. Gérald Darmanin était également sur place hier. Le ministre de l'Intérieur, qui par ailleurs est toujours dans le collimateur de mouvements féministes en raison de la plainte pour viol qui le vise. Et il reçoit ce matin le soutien de 200 élus, pour la plupart proches de lui, dont le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Et ces élus qui signent une tribune appelant, je cite, à la retenue et au respect de la présomption d'innocence.
7h05, comment contrôler le port du masque obligatoire dans les lieux clos?
Question épineuse au lendemain de l'entrée en vigueur du décret qui oblige à porter un masque dans tous les lieux clos accueillant du public. La sanction est claire, 135 € d'amende si vous n'appliquez pas la mesure. Dans l'absolu, les commerçants et les vigiles ont donc le droit d'interdire l'accès à leurs établissements à ceux qui ne portent pas de masque. Des contrôles doivent également être menés par les forces de l'ordre. Mais dans le détail, Ariane Grissel, difficile de définir les modalités de la contravention.
Du côté du ministère de l'Intérieur, on opposait un silence gêné hier aux interrogations sur l'application de ce décret. Si un client tente un passage en force, les responsables de l'établissement ont certes la possibilité d'appeler la police, mais pour en arriver à l'amende, il faut que le contrevenant persiste et attende l'arrivée de la patrouille, ce qui semble peu probable. Autre cas de figure, des policiers aperçoivent un client non masqué à travers une vitrine. Là aussi, difficile d'un point de vue juridique de dire s'ils ont le droit d'intervenir à leur initiative dans ce qui peut s'apparenter à un lieu privé. Seul moment, les forces de l'ordre semblent pouvoir procéder spontanément à une verbalisation si elles croisent quelqu'un sans masque pendant une patrouille dans une galerie commerciale. Tout ceci doit donc encore être affiné juridiquement, même si, au niveau des autorités, on dit surtout vouloir en appeler au bon sens de chacun. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, le précisait hier dans un entretien au journal La Provence. L'important, dit-il, c'est que les Français portent le masque non par crainte du gendarme, mais du virus.
Ariane Grissel, le masque que Donald Trump défend désormais après l'avoir beaucoup moqué ces derniers mois. Le président américain en parle comme un geste, je cite, patriotique face au coronavirus. Et personne n'est aussi patriote que moi, votre président préféré, écrit-il cette nuit sur Twitter. Pas question pour autant de le rendre obligatoire où que ce soit au nom de la liberté individuelle, dit Donald Trump. C'est un procès très attendu qui s'ouvre en Allemagne aujourd'hui, celui de Stéphane Ballet. Ce militant d'extrême droite avait tenté en vain de commettre un attentat contre la synagogue de Halle dans l'est du pays. C'était en octobre 2019. Il avait ensuite tué au hasard une passante dans la rue, puis un homme dans un restaurant. Procès dans un contexte de résurgence de l'extrême droite outre-Rhin. 3 groupuscules ont été interdits depuis le début de l'année.
À Nantes, l'enquête se poursuit pour incendie volontaire.
3 jours après le feu qui a ravagé une partie de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Mais ce qui pose question aujourd'hui, c'est l'application du plan sécurité cathédrale mise en place en fin d'année dernière et qui faisait suite bien sûr à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Une 50aine de recommandations très précises mais parfois difficiles à appliquer et donc Léo Téchère pas toujours bien suivi.
Contrôler les installations électriques, poser des alarmes incendies, sauver les œuvres d'art. Voilà les grandes lignes du plan sécurité cathédrale. 43 pages transmises au DRAC, les directions régionales des affaires culturelles.
Nous n'avions pas attendu ces instructions pour nous auto-saisir.
Philippe Charron en est le responsable du pôle patrimoine dans les Pays de la Loire. Juste après l'incendie de Notre-Dame de Paris, donc il commande un audit sur la cathédrale de Nantes.
Il y avait 40 pages d'analyse pour savoir si est-ce que le téléphone est bon, est-ce qu'on peut trouver facilement les clés. Est-ce que les sapeurs-pompiers connaissent parfaitement l'édifice? Ce qui a ici fonctionné, on peut dire qu'on a évité le pire.
Même si selon la conservatrice régionale, il n'y avait pas eu d'exercice grandeur nature pour les pompiers. Pour ce qui est de l'installation d'alarme incendie, recommandée à court terme par le ministère de la Culture, la cathédrale de Nantes en avait déjà, mais pas là où se sont déclarés les incendies samedi.
Elles étaient installées dans une partie de l'édifice, notamment les parties les plus précieuses de la crypte. Ça n'a pas permis, si vous voulez, de gagner du temps. Pour autant, les pompiers sont intervenus extrêmement rapidement.
Plus que la technologie, Philippe Charron met en avant la chaîne humaine formée samedi pour sauver des biens culturels identifiés en amont. C'est un des points du plan sécurité cathédrale qui a bien fonctionné, malgré la perte notamment du grand orgue.
Léo Téchère, la menace d'un retour au huis clos pour le football français. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, se dit prête à prendre une telle mesure si les mesures destinées à lutter contre la propagation du virus ne sont pas respectées. Référence au match amical de vendredi au Parc des Princes qui opposait le PSG aux Belges de Beveren. 600 supporters collés les uns aux autres pour chanter et encourager leur équipe, faisant fi donc des règles de distanciation physique.
Et cette question à présent, Kevin Dufraîche, qui pour diriger France Télévisions ces 5 prochaines années?
Le CSA rendra son verdict vendredi. En attendant, les auditions commencées hier se terminent aujourd'hui avec le passage des 4 derniers candidats sur 8 au total. À passer aujourd'hui les 2 grands favoris pour le poste. D'un côté, Christopher Baldelli, l'ancien patron d'RTL. De l'autre, l'actuel PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte, candidate à sa propre succession. Duel serré en perspective avec peut-être un léger avantage à la sortante. Delphine Ernotte peut s'appuyer sur un bilan globalement positif aux yeux du CSA. Alexandra Hakoun.
Des audiences en hausse depuis 2018, une chaîne Tout Info, France Info TV, lancée un an après son arrivée, des chaînes aux identités plus claires, un vrai virage numérique pour attirer des publics plus jeunes avec Coucou et Slash. Dans son rapport publié mi-février, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se disait globalement satisfait du bilan de la présidente de France Télévisions, d'autant que budgétairement parlant, Delphine Ernotte aura été une bonne élève pendant 5 ans. Le groupe a renoué avec l'équilibre et ce malgré des coupes drastiques imposées par le gouvernement dans les budgets et les effectifs. Seul 2020 sera déficitaire à cause de la crise sanitaire. Mais le confinement n'a pas eu que des inconvénients pour Delphine Ernotte. Il lui a permis de pallier les manquements pointés par le CSA en février. Pas assez de cinéma, lui reprochait-il par exemple. Elle a programmé un film patrimonial par après-midi. Surtout, la période lui a permis de prouver la réactivité de son groupe. La qualité des programmes éducatifs de France 4 a été saluée de toutes parts. Mais tout cela suffira-t-il pour lui assurer un second mandat? Réponse au plus tard vendredi.
Alexandra Hakoun. Enfin, une comédie noire dans les salles obscures. Le film Né à Jérusalem, toujours vivant, sort demain au cinéma. Une plongée au cœur de Jaffa Street, quartier de Jérusalem, tristement célèbre pour les nombreux attentats qui ont été perpétrés au début des années 2000. On suit un comédien qui a choisi de soigner son traumatisme par le rire, Corinne Pellissier.
Avec sa bouche juvénile et ses petites lunettes rondes, Yossi Atia a tout du guide parfait.
Hi. Hi. You come to the turtle?
Le sourire, le bagou, la malice, tout le contraire du thème morbide de la visite qu'il a imaginé il y a 8 ans pour tenter de dépasser sa peur. Un tour guidé dans le quartier de Jaffa Street qu'il met en scène aujourd'hui au cinéma. La boulangerie où il achète son pain, le lieu d'échange de son premier baiser. La rue dans laquelle il a grandi, des gestes du quotidien remplis de souvenirs et marqués à jamais du sceau des attentats qui ont endeuillé le quartier et dont il a été à 7 reprises l'un des témoins.
Sunday morning, bus number 18. Big explosion. One Palestinian with a rifle.
Un premier long métrage sur un ton humoristique pour dépasser le traumatisme mais ne pas oublier. Yossi Atia décrit chaque événement de manière très factuelle, sans débat, sans polémique. Un témoignage profond sur ce qu'il reste après 10 années d'une vie passée dans la peur. Des relations difficiles, la crainte de nouveaux attentats, la peur de tomber amoureux. Tout cela raconté de manière parfois un peu maladroite et directe. Mais la visite est revigorante et le personnage des plus attachants.
Et ça s'appelle donc Né à Jérusalem, toujours vivant. C'est le coup de cœur cinéma de Corinne Pellissier et ça sort demain en salle.
Et c'était le journal de Kevin Dufraîche.